Bonjour à tous. Nous avons vu dans l'heure précédente du cours dans quelles conditions le pouvoir exécutif avait fait irruption, en quelque sorte, comme nécessité dans les différents pays, en tout cas occidentaux. Ce qu'a montré l'histoire de l'entre-deux-guerres, c'est les formes d'exploration de cet exécutif. Les formes d'exploration que je vais essayer maintenant de décrire à partir de ses bords, c'est-à-dire à partir de ses points limites. Ce qu'a montré en effet l'histoire de l'entre-deux-guerres, c'est que les tentatives de prise en compte de l'exécutif, les tentatives aussi d'essayer de le réfléchir à l'intérieur d'une vision de la démocratie, se sont déployées dans trois directions. Une première direction, c'était d'intégrer l'exécutif dans la démocratie sur le mode de ce que j'ai appelé une démocratie d'autorisation, c'est-à-dire de nomination par le suffrage universel de l'exécutif. La perspective du suffrage universel a donc été là la voie première de considération d'une démocratisation de cet exécutif, avec ce qu'a montré l'entre-deux-guerres, le glissement possible et même rapide vers des régimes autoritaires. Les autres perspectives, au fond, elles s'inspirent assez directement des catégorisations de Rousseau. C'est de déplacer les termes du problème en considérant que la sphère de l'exécutif doit être soustraite à celle de la vie démocratique. C'est la distinction que faisait classiquement Rousseau entre souveraineté et gouvernement. La souveraineté est vraiment l'objet même de la vie démocratique. La souveraineté, c'est là que s'affirme la volonté générale, alors que le gouvernement est une activité subordonnée et n'a donc point besoin d'être régi démocratiquement. Et cette soustraction de la sphère de l'exécutif à celle de la vie politique démocratique s'est développée sur deux modes. Un premier mode, c'est la dépolitisation, en considérant que l'essentiel de l'activité du pouvoir exécutif était de l'ordre d'une administration. Et donc sorti du champ de la démocratie par la réduction à une considération gestionnaire. Le deuxième mode de sortie de la sphère politique démocratique, c'est celui de la radicalisation, de considérer qu'il fallait soustraire l'exécutif au champ de la démocratie, car il est impossible d'intégrer dans la démocratie les problématiques de l'urgence. Et qu'il est impossible d'intégrer dans la démocratie la gestion de la singularité absolue quand la réalité est celle de l'exception. D'où ces trois perspectives entre lesquelles va s'organiser la vision de l'exécutif dans l'entre-deux-guerres. L'exécutif réduit à la gestion de l'état d'urgence, l'exécutif réduit à une problématique gestionnaire et l'exécutif considéré dans la perspective d'une démocratie d'autorisation, nous allons le voir, qui glissera rapidement vers une célébration et un développement pratique des régimes autoritaires. C'est donc dire que la façon dont on peut réfléchir cet exécutif après la Première Guerre mondiale nous oblige à faire une césure avec deux expériences précédentes. Car il y a eu deux expériences précédentes avant le XXe siècle, de tentatives de gestion, mais on va le voir que le mot démocratique ne s'applique pas véritablement, en tout cas de nomination par le suffrage de l'exécutif, c'est l'expérience américaine et l'expérience de 1848. Je voudrais d'abord montrer comment l'expérience de nomination du président aux États-Unis à partir de 1787, en fait, n'était nullement le prélude à une vision de l'intégration de l'exécutif dans la démocratie. On le sait, la Constitution américaine avait institué en 1787, sans qu'il n'y ait de débat, la fonction de président des États-Unis d'Amérique. Les pères fondateurs avaient alors voulu faire exister un pouvoir exécutif fort. Ils avaient estimé avec Hamilton que l'énergie de l'exécutif est un caractère directeur de la définition d'un bon gouvernement et qu'il était appelé à être mis en une seule main. Et pour cela, ils avaient refusé la tentation de le concevoir comme pluriel, pensant que s'il était mis entre une seule main, il serait aussi efficace que responsable. Et cette vision d'un exécutif énergique et unitaire contrastait alors singulièrement avec l'expérience française. En effet, on l'a vu, jamais, ni en 1789, ni en 1793, on avait tenu en France un tel langage. Il n'y avait en Amérique aucune obsession, comme en France, d'écarter les personnalités jugées excessives. Pour deux raisons. D'abord, la figure de Washington surplombait alors avec évidence l'esprit des rédacteurs de la Constitution. L'institution d'un président aux États-Unis ne s'inscrivait donc pas dans une pure construction constitutionnelle. Elle avait un visage qui symbolisait l'unité de combat des confédérés en lutte contre le joug britannique. Visage unanimement respecté, assimilé à une histoire de liberté et d'affirmation positive. L'Amérique était par ailleurs un pays fédéral dans lequel les États disposaient d'une très large autonomie. À l'origine, les pouvoirs du président étaient ainsi presque inexistants en matière intérieure. L'administration qu'il était appelé à diriger ne comptait d'ailleurs que quelques centaines de personnes. Et celui-ci exerçait surtout une fonction de représentation du pays et avait au fond comme titre le plus important d'être le commandant en chef des armées. Et une conception énergique de l'exécutif n'avait ainsi, aux États-Unis, rien à voir avec l'idée d'une omnipotence et l'idée d'une omniprésence. Et dans ces conditions, le spectre d'un possible glissement vers un pouvoir despotique n'avait jamais tourmenté les esprits. Fait significatif, il fut d'abord envisagé de lui confier un très long mandat, alors même qu'en matière de représentation, on avait considéré des mandats très courts, 2 ans et même au début envisagé 1 an. Et le terme de 7 ans avait ainsi été envisagé dans un premier temps par Madison avant que le chiffre de 6 ans ne fasse converger, dans un premier temps en tout cas, les opinions au sein de la Convention fédérale. Consensus qui contrastait donc singulièrement avec la vivacité des débats consacrés à la durée des mandats pour l'organisation de la Chambre des représentants. Mais comment procéder à la désignation du président ? Il fut un moment qu'il soit envisagé qu'il soit nommé par le Congrès, le Sénat et la Chambre des représentants. Mais cette procédure fut repoussée. On craignit qu'elle ne conduise à faire du président un jouet entre les mains des factions parlementaires. Et furent même pêle-mêle invoquées à ce propos les intrigues du Sacré Collège pour l'élection du pape et celles de la Diète polonaise pour la nomination du roi. On avait les références qu'on pouvait. Et fut simultanément repoussée la proposition de Wilson de procéder à une élection directe par les citoyens. La question avait été repoussée sans discussion. Et l'accord se fit sur le principe d'une désignation par un corps de grands électeurs constitué, à cet effet particulier, composé de représentants des différents États en nombre équivalent aux sénateurs et aux représentants attribués à chacun. Et les éléments pratiques d'organisation de l'élection, parce qu'il était compliqué alors de déplacer à Washington un grand nombre de personnes et une certaine vision aristocratique, disons, du suffrage, s'étaient alors conjugués pour faire adopter cette disposition. On était donc fort loin d'une élection populaire, d'autant plus que les législatures des États étaient libres de faire désigner leurs grands électeurs selon les modalités de leur choix. Et dans certains États, ce sont les législatures elles-mêmes qui désignèrent ces électeurs, tandis que d'autres optèrent pour une élection populaire directe, mais en découpant leur territoire en districts entre lesquels était divisé le nombre de personnes à désigner. Élections dans lesquelles les candidats furent très tôt identifiés à la défense d'un ticket qui comportait le nom d'un président et d'un vice-président. Et c'est seulement en 1832 que cette procédure de nomination, qui qui se fait sur la base des districts a été abordé presque partout. Mais ce n'est que très progressivement que le choix des candidats impliquera les citoyens eux-mêmes. Dans un premier temps, c'était l'affaire des seuls caucuses, composées de personnalités locales autodésignées. Et ce fut progressivement, à partir, disons, de Jackson, celle des conventions de parti. Et en fait, il fallut attendre le début du XXe siècle pour que le système des primaires fasse son apparition et commence vraiment à modifier substantiellement le sens de l'élection du président. Le système des grands électeurs, à partir de l'installation des primaires, produisant des effets non pas équivalents, on l'a bien vu encore dans plusieurs élections récentes, mais des effets quasi équivalents à ceux d'une élection directe au suffrage universel. Aux yeux de l'observateur européen du XIXe siècle, l'élection du président américain ne revêt donc pas le caractère d'une élection au suffrage universel. Et le fait d'un exécutif républicain reposant sur une seule tête était renvoyé aux conditions spécifiques de l'indépendance du pays, autant qu'à son organisation fédérale et à sa faible population. On ne voyait pas sur ce point spécifique que l'Amérique puisse dessiner un quelconque avenir de la constitution du pouvoir exécutif. Nul n'aurait donc songé à voir dans l'institution présidentielle américaine l'expression d'une forme de démocratie plébiscitaire qui aurait dessiné un horizon à l'histoire à venir des démocraties. De la même façon, l'expérience de 1848 en France a été un moment qui a plus été celui d'une parenthèse que celui d'une inauguration. Car cette élection au suffrage universel, j'en avais dit quelques mots l'an dernier, a été adoptée sans que cela donne lieu à de véritables débats. Et tout s'est passé en fait assez simplement. Lors de la réunion concernée du comité de constitution, qui était présidé par Cormenin, lorsqu'on avait abordé la question du mode de nomination de la tête de l'exécutif, trois options avaient de prime abord été envisagées. L'exercice direct du pouvoir exécutif par l'Assemblée, je dirais dans la continuité révolutionnaire, par l'entremise de délégués de l'Assemblée, la formation ensuite d'un exécutif collégial, là aussi renvoyant à l'expérience révolutionnaire, et la mise en place d'un président. Et la dernière formule fut adoptée sans guère de discussion parce qu'en fait, elle était celle qui ne renvoyait pas à des expériences diverses, mais toutes jugées non concluantes de la Révolution. Alors qu'à l'inverse, l'exemple américain, qui au fond était mal connu, était auréolé du type de prestige d'un type de république qui était alors rituellement opposé à celle de la république conventionnelle. Dans les années 1840, en effet, cela avait été vraiment un leitmotiv des débats politiques que d'opposer la République conventionnelle, supposée avoir des accents robespierristes, et la République américaine. Et la présence de Tocqueville et de Beaumont, la commission ne comptait qu'une douzaine de personnes, mais la présence de Tocqueville et de Beaumont parmi les membres de ce petit comité avait là très certainement compté. La question qui fut la plus discutée fut en revanche celle d'une éventuelle rééligibilité. Et le projet initial du comité de constitution n'avait pas envisagé cela. Mais ce qui fut véritablement discuté, c'est le mode de nomination, effectivement, du président. Il y avait eu un courant qui s'était manifesté, autour notamment d'Armand Marat, de Dufour, pour proposer une élection par l'Assemblée, ou bien au moins une sélection par l'Assemblée des différents candidats qui, ensuite, dans ce cas-là, seraient soumis au suffrage universel. Mais c'est en fait le principe de l'élection directe par les citoyens, sans restriction de candidature, qui sera finalement retenu, avec seulement, pour être élu, la nécessité d'avoir au moins 2 millions de suffrages, ce qui était tout de même un nombre assez modeste, disons. Et toute autre formule était alors apparue comme diminutive de la souveraineté nationale. L'essentiel de ces dispositions sera repris dans le texte final. Non sans d'âpres discussions à l'Assemblée, qu'il faut rappeler pour bien prendre la mesure des conditions de cette extraordinaire innovation constitutionnelle. À l'extrême gauche, Félix Piat, le futur communard, avait plaidé contre l'institution même d'une présidence. Il ne pouvait y avoir pour lui deux expressions distinctes de la volonté générale. Et la division des pouvoirs, disait-il, n'est pas d'essence républicaine. c'est la vieille expression du monisme révolutionnaire. Dans une république, avait-il dit, il n'y a plus qu'un droit, le droit du peuple, qu'un roi, le peuple même, représenté par une assemblée élue. Cette assemblée doit donc être souveraine, comme le peuple qu'elle représente, elle résume tous les pouvoirs, elle règne et gouverne par la grâce du peuple, elle est absolue, comme l'ancienne monarchie, et peut dire aussi « l'État, c'est moi ». C'est donc à la fois l'expression du monisme révolutionnaire et de la pure théorie du pouvoir parlementaire. Et la démocratie et la République consistaient ainsi pour Félix Piat simplement dans la translation à un collectif élu de l'ancien pouvoir royal. C'était la vision donc classique qui était hostile à toute idée d'équilibre et de contrepoint. Mais vision qui avait aussi une dimension libérale, et c'est pour cela qu'elle était défendue aussi par des libéraux, dans la mesure où l'existence d'une direction collective constituait une garantie que le pouvoir pouvait rester soumis au droit. Alors qu'à l'inverse, l'élection d'un seul, surtout s'il était considéré comme responsable, lui donnerait une force immense, presque irrésistible, disait Piat, et virtuellement menaçante. Une telle élection, avait-il dit, est un sacre bien autrement divin que l'huile de Reims et le sang de Saint-Louis. Et de deux choses l'une, insistait Piat, si le président est plus faible que l'Assemblée, c'est la voie ouverte à l'impuissance et à l'ingouvernabilité, mais s'il est plus fort, il le sera nécessairement beaucoup trop. Et alors, il aura une puissance supérieure à celle d'un monarque constitutionnel irresponsable. Et donc, le système, estimait-il, était dangereux, car structurellement instable, trop faible ou trop fort. Et Félix Piat oubliait certes de mentionner la fonction d'un conseil des ministres qui, lui, aurait bien été responsable devant le Parlement. Mais l'argument du conflit des légitimités et de sa trop grande force ou de sa trop grande faiblesse était évidemment fort. D'autant plus qu'était pas véritablement pertinente, disait Piat, la comparaison avec l'exemple américain. Car le président aux États-Unis était d'abord le point de réunion nécessaire d'un pays fédéral. Et la présence d'un président était nécessaire pour consolider l'unité d'un pays dans lequel le fédéralisme était, on le verra plus tard, extrêmement ancré. En démocrate d'extrême-gauche, Piat ne pouvait certes pas récuser l'idée d'une élection par suffrage universel, mais il pouvait repousser l'institution de la fonction concernée. Ce n'est donc pas l'idée du suffrage universel, mais l'institution même de la présidence qui était critiquée. Du côté socialiste, c'était le spectre de la monarchie qui était globalement agité. Pierre Leroux accusait ainsi le projet, je le cite, « de conserver la monarchie sous le nom de présidence et par là même d'ouvrir la carrière à toutes les ambitions ». C'était le même son de cloche chez Proudhon. Il disait « la présidence, c'est la monarchie ». Dans Le Peuple, il écrivait encore « Vous excitez dans le pays la fringale monarchique. Le pays vous répondra par une monarchie. Votre président sera roi. » Et c'est ce qu'il reprochait à ses plumes qu'ils estimaient imprudentes du comité de constitution. La menace tenait aussi pour Proudhon au fait que pour le peuple, le pouvoir véritable, parce que sensible et visible, était celui de l'exécutif. Et là, les réflexions de Proudhon étaient très novatrices. Et c'est parce que le peuple considérait que le vrai pouvoir, c'est ce qui était visible, c'est pour cela que, du même coup, c'est vers des personnalités capables de le subjuguer et non vers les talents effectifs qui se tourneraient. Il écrivait « Vous sauriez-vous, par hasard, imaginer nos Solons et nos Lycurgues ?» lançait-il aux membres du comité, « que le peuple ayant marié à marier sa fille, la République irait lui donner un manant tel que vous et moi ?» Cavaignac, Lamartine, Le Drurolin ou Thomas Diafoirus ? Quoi ? Un soldat ? Un rimeur ? Un bachelier président de la République ? Fou que vous êtes ! Est-ce que le peuple connaît ce monde-là ? Est-ce qu'il s'inquiète de leurs galons et de leurs diplômes ? Non. Ce qu'il faut au peuple pour la République, ce qu'il demande, c'est un bon mâle, de forte encolure et de noble race. Il fallait donc, pour lui aussi, repousser l'idée même d'une présidence. Comme Pierre Leroux, la réforme essentielle était pour lui de refonder le système représentatif et de l'asseoir, on le sait, sur des formes de représentation professionnelle qui donneraient le pouvoir au prolétariat organisé. Dans le camp des républicains conservateurs, c'est d'abord le pouvoir parlementaire qu'il s'agissait de préserver, dans le sens moniste de la tradition révolutionnaire. Et les républicains conservateurs se retrouvaient sur ce point totalement avec l'extrême gauche. On verra d'ailleurs que ce sera une alliance sur ce point constitutionnel qui durera sous la Troisième République. Et le système représentatif dont il était issu avait en outre pour eux la vertu sociologique majeure de tenir à distance les passions populaires et de maintenir le pouvoir entre les mains des élites du pays. Ces républicains conservateurs n'allaient cependant pas jusqu'à repousser l'idée d'une présidence, tant l'attrait diffus du modèle américain exerçait aussi ses effets sur eux. Jules Grévy, dont c'était la première grande intervention parlementaire, avait plaidé ainsi pour la prééminence de l'Assemblée, mais appelé, lui, à faire élire par ses soins un chef de gouvernement également révocable par elle. Il avait surtout mis en garde contre le danger bonapartiste. « Oubliez-vous, avait-il dit, que ce sont les élections de l'an 10 qui ont donné à Bonaparte la force de relever le trône et de s'y asseoir. Voilà le pouvoir que vous élevez. Êtes-vous sûr qu'il ne se trouvera jamais un ambitieux tenté de s'y perpétuer ? Et si cet ambitieux est un homme qui a su se rendre populaire, si c'est un général victorieux, entouré de ce prestige de la gloire militaire auxquels les Français ne savent pas résister, si c'est le rejeton d'une des familles qui ont régné sur la France et s'il n'a jamais expressément renoncé à ce qu'il appelle ses droits, si le commerce languit, si le peuple souffre, s'il est dans un de ces moments de crise où la misère et la déception le livrent à ceux qui cachent sous des promesses des projets contre la liberté, répondez-vous que cet ambitieux ne parviendra pas à renverser la République ? Et les peurs conservatrices, pourrait-on dire, se liaient chez lui à la hantise du bonapartisme ainsi pour repousser l'élection au suffrage universel. Mais chez lui encore, c'était les souvenirs historiques, c'était les peurs, beaucoup plus que l'argumentation politique et constitutionnelle qui était manifestée. Et comme chez les socialistes, on peut dire qu'il n'avait pas alors eu l'intelligence critique de son aversion pour ce présidentialisme au suffrage universel. Et c'est en partie pour cela, d'ailleurs, que ses réticences et ses refus furent de peu de poids. Il n'y a pas eu besoin d'une rigoureuse démonstration juridique et politique pour passer outre ces critiques. Il n'y a pas eu alors deux conceptions de la démocratie et du pouvoir exécutif qui sont affrontées dans un débat argumenté et consistant. Tocqueville, à qui incombait la défense du projet du comité devant l'Assemblée, avait ainsi pu se contenter de balayer ses différentes craintes conservatrices ou d'extrême-gauche de dérive de l'institution et ses différents risques évoqués avec des arguments assez faibles. Il avait surtout minimisé les enjeux et soutenu que le pouvoir du président se réduisait à peu de choses, même avec l'élection populaire. Il n'y avait donc pas lieu pour lui de s'alarmer. Au fond, cette élection ne servirait qu'à donner, disait-il, quelques couleurs à un pouvoir en lui-même bien falot. Comme si cet être si faible, pour remplir son expression, ne pouvait parvenir à prendre consistance que grâce à cette grande ombre du peuple qui planerait positivement sur lui du fait de son élection au suffrage universel. Retirez-la lui et au terme de la Constitution, il ne restera rien, avait-il même été jusqu'à dire. Juste une béquille ou une brosse à reluire, en quelque sorte, que cette élection pour lui. Son principe appartenait, au fond, à un de ces faits de civilisation irréversible que l'on pouvait éventuellement déplorer, mais sans en interrompre la marche. Son ami Gustave de Beaumont avait alors laconiquement noté de son côté « Il est évident que l'élection du président ne peut être faite qu'au suffrage universel ». Et on le sait, le grand orateur de la période, qui était Lamartine, défendra avec beaucoup de flamme cette institution, mais avec plus de grands mots que d'arguments. Et du même coup, les arguments constitutionnels étant limités, on peut dire que c'est un saut dans l'inconnu qui a été fait, mais un saut dans l'inconnu qui n'était pas considéré comme dangereux. Un saut dans l'inconnu qu'on peut comparer à ce fameux « leap in the dark » dont les Britanniques parleront en 1867 au moment du second Reform Bill. Lamartine avait conclu « Le pouvoir dans les républiques est dans la popularité où il n'est nulle part. » Et à court d'arguments, il avait dit « Alea jacta est ». Que Dieu et le peuple se prononcent, il faut laisser quelque chose à la Providence. Et évidemment, on verra le travail de la Providence. La première véritable élection moderne au suffrage universel, pour cela, réfléchie, liée à une considération moderne du pouvoir exécutif, n'est donc pas la suite de ces deux tentatives historiques. De l'élection américaine et de l'élection française de 1848. C'est seulement avec Weimar, la République de Weimar, en 1919, que va être inventée cette forme de démocratie présidentielle. En 1871, la constitution allemande qui avait été élaborée par Bismarck, au lendemain de la victoire, avait mis en place un système dualiste avec prépondérance de l'exécutif. Mais le régime en place, alors, n'avait rien de vraiment parlementaire. L'empereur pouvait dissoudre le Reichstag, mais ce dernier ne pouvait renverser le chancelier, la tête de l'exécutif, qui ne dépendait que du premier. En 1918, après la guerre, tout sera différent. Après la défaite et le départ de l'empereur, la nouvelle constitution va mettre en place un régime également dualiste, mais plus structurel que le précédent, les pouvoirs exécutifs et législatifs y étant parfois renforcés de concert. Renforcement du Parlement, tout d'abord. Outre ses prérogatives ordinaires en matière législative et budgétaire, le Reichstag conquérera une véritable autonomie politique et il peut notamment retirer sa confiance au chancelier du Reich comme au ministre pris individuellement. Mais le pouvoir exécutif est simultanément renforcé par l'élection directe au suffrage universel du président du Reich. C'est là, avec l'article 48 dont je parlerai dans une séance prochaine, l'innovation décisive qui a marqué la constitution de Weimar. Innovation inséparable de tout un ensemble d'autres dispositions démocratiques qui ont donné à ce texte un caractère pionnier dans l'Europe du début du XXe siècle. Instauration du suffrage féminin, d'abord, même si, à cette période, l'Allemagne n'est pas la seule dans ce cas. Possibilité de déposition du président du Reich par un vote populaire, l'équivalent du recall américain, organisé à la demande des deux tiers des membres du Reichstag. Possibilité, à l'inverse, pour le président du Reich de susciter un référendum pour écarter une décision du Parlement en matière de budget, de loi sur les impôts ou de traitement des fonctionnaires. Et enfin, organisation d'un référendum lorsqu'un projet de loi est présenté à l'initiative du dixième des électeurs. On retrouve donc dans la constitution de Weimar tout un ensemble des dispositifs qui avaient été suscités, ou souhaités en tout cas, par le Progressive Movement aux États-Unis, avec cette différence fondamentale qu'il y a l'ajout de l'élection au suffrage direct du président. Le lieu n'est pas ici de développer l'analyse de ce texte fondateur, mais il convient en revanche de revenir sur les conditions dans lesquelles l'élection populaire de la tête de l'exécutif a été décidée de façon relativement consensuelle. C'est cela qui est l'élément remarquable, car cela n'avait rien d'évident a priori. Les sociodémocrates avaient, par exemple, commencé à dénoncer un président du Reich qui serait un simple substitut d'empereur. Il parlait de Kaiser Ersatz, déclarant que l'élection présidentielle par le peuple était une authentique ficelle napoléonienne. C'est l'expression qui sera employée par le vétéran du parti, Hermann Falkenburg. La préférence des sociodémocrates allait spontanément vers le régime parlementaire, dans lequel le gouvernement se trouverait dans la dépendance de la représentation populaire. Ils acceptaient la mise en place d'un chef de l'État, mais à condition que celui-ci ait un pur rôle de représentation. Mais ils infléchirent leur point de vue lorsqu'ils réalisèrent que l'un des leurs pourrait occuper cette fonction. Et ce sera effectivement Friedrich Ebert, leur leader, qui sera de fait le premier président en fonction de 1919 à 1925. Et les libéraux, de leur côté, voyaient dans le type de dualisme qui était envisagé la forme moderne d'une sorte de monarchie constitutionnelle qui leur convenait. À droite, plus largement, on voyait dans la figure présidentielle un moyen d'équilibrer et de limiter les effets de l'expression populaire dans son expression parlementaire. On pensait aussi qu'elle s'imposait pour éviter que ne se mette en place, je reviendrai sur ce point, un régime de la discussion, synonyme d'impuissance. D'une façon plus large, l'antiparlementarisme diffus de l'époque, qui se retrouvait partout en Europe, allait dans le sens de la reconnaissance d'un pouvoir accru de l'exécutif. On peut donc dire que l'élection au suffrage universel satisfaisait les uns et n'inquiétait pas les autres. Des raisons opposées purent de la sorte converger pour faire adopter cette mesure. Cela n'allait évidemment pas sans ambiguïtés conséquentes, qui se révéleront plus tard explosives. Alors que les sociaux-démocrates avaient accepté une présidence élective, ils rejetaient ainsi vivement l'idée d'un chef plébiscitaire du Reich conçu comme contrepoids au Parlement. Ils avaient considéré comme démocratique une élection au suffrage universel, mais ils continuaient à défendre sur le fond les principes du régime parlementaire, même s'ils acceptaient que ce régime parlementaire soit amendé par les mécanismes référendaires auxquels j'ai rapidement fait allusion tout à l'heure. Et ils restaient en cela, d'abord et avant tout, les ardents défenseurs d'une démocratie des partis. D'autres, à l'inverse, célébraient la montée en puissance du pouvoir exécutif qui s'opérait de cette façon. De façon décisive, mais non moins présente dans les débats publics, la question de l'organisation du pays en Länder, dans le contexte de la prépondérance de la Prusse, avait aussi beaucoup compté pour justifier une appréhension vigoureuse du rôle de l'exécutif et du pouvoir présidentiel en particulier. La question de l'hégémonie grand-prussienne avait ainsi été au cœur des réflexions des deux grands inspirateurs du texte constitutionnel, Hugo Preuss et Max Weber. Même s'ils ne s'accordaient pas sur les conditions à mettre en œuvre pour rompre cette hégémonie, Preuss voulait découper la Prusse en 10 Länder, tandis que Weber, plus réaliste quant à la persistance prévisible de l'État prussien, envisageait plutôt des garde-fous institutionnels. Mais tous les deux voyaient dans la limitation des pouvoirs du Parlement un élément clé de solution au problème fédéral allemand. Un pur parlementarisme aurait en effet permis à leurs yeux d'assurer une position hégémonique de la Prusse dans un Reichstag élu sur une base unitaire. Il était donc aussi décisif, dans la même perspective, que le président ne tienne pas son pouvoir du Reichstag, d'où l'importance d'une élection au suffrage universel direct dans ce cadre. Au-delà de ces considérations immédiatement constitutionnelles, Max Weber, on le sait, a théorisé dans ce contexte la notion de démocratie plébiscitaire, forgeant en allemand le terme de plébiscitaire Führer, démocratie. Elle lui a alors permis de caractériser des situations dans lesquelles le charisme était réinterprété en dehors de toute relation de domination. C'est dans une série d'articles de 1917, rassemblés sous le titre « Parlement et gouvernement dans l'Allemagne réorganisée », que Max Weber a développé cette conceptualisation. Et pour bien suivre sa démarche, il faut rappeler ce qui constituait à ses yeux de sociologue le point de départ de toute réflexion politique de l'époque. Trois facteurs structurels déterminants étaient pour lui à prendre en compte. Tout d'abord, le fait de la bureaucratisation et de la tendance conséquente à l'autodétermination de l'administration, à son autonomisation, qui était gage d'efficacité, mais de sclérose à la fois. En second lieu, second élément central, le rôle joué par les partis politiques, avec le poids toujours plus grand des machines et des politiciens professionnels. Weber avait totalement fait sienne sur ce point les analyses de Bryce, de Michels et de Ostrogorski sur le rôle des partis comme nouvelle puissance oligarchique. Enfin, troisième élément, le danger qui était représenté dans les démocraties de masse, je le cite, par la possibilité de prévalence des éléments émotionnels en politique. Donc on peut voir que dans les peurs de Max Weber, il y avait une analyse de la bureaucratisation, une analyse de l'oligarchie des partis, et puis une analyse, au fond, très proche de celle de Le Bon sur les foules émotives en politique. Et Weber pensait donc qu'il fallait canaliser et contrôler cette administration, qu'il fallait trouver un bon usage de partis qui, s'ils étaient désormais incontournables, s'ils avaient un rôle indépassable, parce qu'ils contribuaient, c'est son expression, à rationaliser la démocratie de la rue. Mais s'il fallait en outre honorer la souveraineté populaire, il fallait en même temps l'encadrer et l'organiser. Donc il n'y avait pas de réflexion sur l'exécutif qui ne tienne pas compte, valable, qui ne tienne pas compte de ces trois facteurs. Et c'est l'élection au suffrage universel du chef de l'exécutif qui lui paraissait susceptible de répondre à ces trois objectifs et de contourner ces trois difficultés des démocraties modernes. C'était donc invité à fonder l'État de Weimar sur deux principes complémentaires de légitimation. La légitimité constitutionnelle parlementaire, d'une part, et la légitimité qualifiée, c'est le terme qu'il emploie, de révolutionnaire du président du Reich, élu directement par le peuple. Cette légitimité révolutionnaire dessinait une position qui était pour lui à la fois de recours et de puissance. Elle reposait sur l'appel fait aux partis de sélectionner des leaders aptes à remplir cette tâche. Elle donnait satisfaction, de l'autre côté, aux masses qui affirmaient de leur sorte leur souveraineté. Donc l'élection au suffrage universel était un compromis entre la dynamique du suffrage universel et la reconnaissance du rôle de fait des partis. Les partis étant des agences de sélection et le suffrage universel à un moment de choix. Et Weber considérait ainsi qu'un nouvel âge de la démocratie pouvait s'ouvrir, prenant la suite de la précédente démocratie des partis. C'est cela qui est très important. Pour lui, c'était la solution à la démocratie des partis qui s'enfermait dans l'oligarchie et le repli sur elle-même. Je le cite. « La conséquence de la démocratisation active des masses est que le chef politique n'est plus proclamé candidat par un cercle restreint de notables qui reconnaissent qu'il a fait ses preuves pour ensuite se transformer en chef grâce à son action parlementaire. Aujourd'hui, il gagne la confiance et la foi que les masses placent en lui et donc en son pouvoir en utilisant des moyens démagogiques de masse. » Dans l'essence démagogique étant employé là au sens technique du terme, disons. Dans l'essence des choses, cela signifie un tournant césariste dans la sélection des chefs. Et le fait que toute démocratie comporte cette tendance est fondamental. Et le moyen spécifiquement césariste, c'est le plébiscite. Weber n'a pas voulu identifier une forme démocratique que l'on pourrait dire plus avancée, en caractérisant ce tournant césariste. Il a même, en effet, toujours été un démocratique fort sceptique. Il n'a jamais cru à l'idée d'une volonté générale active. Il a toujours considéré, en sociologue réaliste, que le pouvoir était mécaniquement destiné à être exercé par une oligarchie. Il a toujours eu une vision purement instrumentale et aucunement philosophique de la démocratie. Avec ce modèle plébiscitaire, c'était donc plutôt paradoxalement une perspective de démocratie minimaliste qu'il avait voulu dessiner. Alors que les théoriciens qui le suivront, la démocratie minimaliste, seront des théoriciens qui penseront directement en termes de retour à des formes d'oligarchie, lui pensera que la démocratie minimaliste moderne, c'est une démocratie qui repose sur l'élection de l'exécutif au suffrage universel, car il dit « l'homologation du commandement est la fonction première de l'électorat ». Une démocratie minimaliste était ainsi une démocratie dans laquelle il y avait cette expression populaire, mais qui était ensuite un blanc-seing donné au pouvoir. Donc l'élection n'était pas une procédure de contrôle, l'élection était une procédure d'autorisation qui donnait un blanc-seing. On pourrait dire en ce sens qu'il a entendu faire un usage conservateur du césarisme. Et là, il serait très intéressant, je n'y insiste pas, mais de faire le parallèle et de montrer les différences avec l'approche de la théorie minimale qu'il y avait chez Schumpeter. Schumpeter, qui sera un grand lecteur de Max Weber, et les passages de capitalisme, socialisme et démocratie consacrés à la démocratie moderne sont en fait complètement pétris de lectures de Max Weber. Weber, il faut le souligner fortement, ne craignait pas qu'une telle démocratie plébiscitaire puisse régresser en dictature charismatique, même s'il reconnaissait qu'il n'y avait pas d'impossibilité en principe. La menace moderne, en effet, elle était pour lui d'abord celle du poids croissant des machines partisanes qui engendraient, disait-il, une ankylose bureaucratique croissante de l'activité politique volontariste et qui freinait l'accès au pouvoir des fortes personnalités. Le danger moderne, c'était donc la bureaucratisation et l'ankylose et non pas le césarisme au sens français du terme. Il croyait aussi, d'un autre côté, que les masses resteraient durablement encadrées par des grands partis, même si émergeaient simultanément de nouvelles procédures référendaires. Et décédé en 1920, Weber aurait probablement été surpris de découvrir qu'un de ses lecteurs les plus attentifs avait été quelques années plus tard Carl Schmitt. Il est vrai aussi qu'il n'avait pas eu le temps de prendre la pleine mesure des effets problématiques du caractère hybride de la Constitution de 1919. Carl Schmitt, qui ne gardera de Weber que l'idée de légitimité démocratico-plébiscitaire, opposée aux partis politiques, contre le fait parlementaire, érigera cette dernière en pivot de redéfinition d'une démocratie radicalement illibérale. Carl Schmitt, qui a repris la conception du président du Reich, élu du peuple comme chef politique, en fait l'a poussé aux limites extrêmes du possible, en rejetant loin en arrière les éléments constitutionnels avec lesquels Weber pensait au contraire contraindre le chef à confirmer continuellement son don charismatique. La vision weberienne du tournant césariste est inséparable d'une appréhension du pouvoir politique comme étant de nature essentiellement exécutive. L'exécutif avait pour double caractéristique aux yeux de Weber d'être un pouvoir directement actif, il consiste à prendre des décisions exercées par des individus. C'est cette circonstance inévitable, écrivait-il, qui détermine le fait que la démocratie de masse, depuis l'époque de Périclès, a toujours acheté ses succès au prix de fortes concessions au principe césariste de la sélection des chefs. À l'inverse, le pouvoir législatif est d'ordre collectif et il est d'essence principalement négative. Donc l'opposition du législatif et de l'exécutif n'est pas simplement une opposition des domaines, mais une opposition de la politique positive et de la politique négative. Théoricien réaliste de la politique, Weber a totalement pris congé, en ce sens, de la perspective légicentrique des régimes libéraux et démocratiques de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. Et il a aussi compris que la perception sociale de la volonté politique n'était plus celle de règles qui exprimaient une volonté générale, mais bien celle d'un ensemble de décisions spécifiques immédiatement sensibles. Il a bien vu que l'antiparlementarisme populaire participait en ce sens de la dénonciation de l'espèce de volonté d'impuissance. C'est comme cela, c'est l'expression qu'il emploie dans son grand article « Parlement et gouvernement », caractérisant en son essence l'activité du Parlement et celle des partis. La perspective césariste s'inscrivait donc fortement pour lui dans un nouvel âge objectif de l'agir et de la volonté appréhendée comme telle par les masses. Et elle correspondait pour cela à l'acceptation d'une coupure structurelle et incontournable entre les gouvernés et les gouvernants. Le problème étant de réguler démocratiquement ce rapport à distance de toutes les précédentes utopies d'un peuple directement législateur. Comment est-on alors passé en quelques années de la République de Weimar qui avait voulu esquisser le modèle d'une démocratie plébiscitaire à la dictature nazie? Ce basculement a été celui d'une concentration de tous les pouvoirs par l'exécutif et d'une personnalisation exacerbée de ce dernier. Il est exemplaire d'un mouvement de radicalisation dont il est essentiel de comprendre les ressorts. car c'est ce basculement qui expliquera pourquoi, après la Deuxième Guerre mondiale, cette première tentative de Weimar de considérer une nomination directe de l'exécutif sera fortement remise en cause. Ce mouvement de radicalisation, il est d'abord lié avec évidence à une déconsidération progressive du Parlement. Dans un premier temps, en Allemagne, l'antiparlementarisme se distingue pourtant peu de celui que l'on rencontre alors partout en Europe. Et il se situait classiquement dans la continuité de l'antiparlementarisme populaire déjà présent sous l'Empire. Il était peut-être même alors moins virulent que celui qu'il y avait en France. Il n'y avait pas, par exemple, en Allemagne, dans les années 1890, disons, 1900, l'équivalent des scandales de Panama ou de celui des décorations. Et l'image de députés profiteurs du système y était aussi moins vive qu'en France. Je rappelle qu'en France, c'est le vote de la fameuse indemnité de 15 000 francs au début du XXe siècle qui déchaînera les fureurs et les quolibets contre ceux qui, bien longtemps après les caricatures de la monarchie de Juillet, seront considérés comme les nouveaux ventrus. Et les députés allemands, en effet, ne recevaient aucune indemnité avant 1914. Et le terreau antiparlementaire ne marquait donc, outre-Rhin, aucune prédisposition particulière. Des scandales éclatèrent certes au début de la période républicaine. On peut notamment penser au fameux scandale Barmat en 1924, qui alimentera également une fièvre antisémite. Julius Barmat était en effet un entrepreneur juif hollandais d'origine russo-ukrainienne. Il était membre du Parti social-démocrate hollandais. Il était accusé d'avoir détourné des fonds de la Banque de Prusse en liaison avec des politiciens. Il y aura donc d'autres causes à la montée en flèche de l'antiparlementarisme à partir du milieu des années 20. D'autres causes d'ordre fonctionnel d'abord. De nombreux membres du Reichstag exerçaient en effet aussi un mandat local dans un Landtag. Et leur fort attachement à leur Länder les conduisait de fait à ne pas considérer comme prioritaire leur action à Berlin. Et la vie parlementaire était en outre alors beaucoup plus terne qu'en France ou en Grande-Bretagne. En Allemagne, la discipline de parti était en effet très rigide. Et c'est dans les instances des partis et non au sein des groupes parlementaires que s'élaboraient les positions. Et ce n'était pas au Parlement que se montraient les véritables rapports de force. Il n'y avait, en outre, au Reichstag, aucun de ces joutes oratoires et ces brillantes interpellations qui attiraient ailleurs l'attention du public et donnaient au Parlement leur centralité politique. Le Reichstag n'avait alors nullement le visage d'un Parlement d'éloquence à la française, pour faire référence au livre de Rousselier dans son titre. Ces séances, en effet, ne consistaient qu'en une succession de longs discours qui étaient lus à la tribune. Et l'institution n'avait de la sorte pas de véritable centralité. Il faut aussi souligner les causes directement politiques partisanes de la déconsidération du Parlement. Elles ont d'abord été liées au rapide reflux des partis fondateurs de la République. Ce reflux traduisant autant le désenchantement d'une partie de l'électorat face à l'action gouvernementale que la fragilité de l'adhésion au nouveau régime de ceux que Meinecke appellera les républicains de raison, les Vernunft-Republikaner. À partir du milieu des années 1920, plusieurs importants partis, bien représentés au Parlement, afficheront du même coup de plus en plus fortement leur mépris pour l'institution parlementaire au sein même du Parlement. Ce sera le cas notamment du Parti populaire national allemand, le DNVP. En 1928, son président parlera du Parlement comme un bourbier qui étouffe la nation allemande. Il appellera à mettre bas la République et les institutions démocratiques. Le Parti communiste, qui est né en même temps que le régime, pratiquement, dénonçait de son côté avec virulence la comédie parlementaire et prônait une stratégie révolutionnaire de rupture. Et les nazis, bien sûr, accompagnaient leur montée en puissance d'un affichage de plus en plus virulent de leur mépris absolu pour le Reichstag. Avant même leur percée électorale de 1930, ils n'avaient eu de cesse de vitupérer l'institution. Dans Mein Kampf, Hitler en avait parlé comme d'une majorité vacillante d'individus, d'embusqués moraux, de dilettantes bornées, constituant un demi-monde intellectuel de la pire espèce. Et Joseph Goebbels, qui sera d'ailleurs amené à présider le Reichstag, notera lors de sa première élection en 1928 que ces séances, je le cite, faisaient penser à une école de juifs enragés. Et il écrira « Le parlementarisme est mûr depuis longtemps pour la chute, nous allons sonner le glas pour lui. J'en ai déjà assez de cette comédie, ils n'auront pas trop souvent l'occasion de m'y voir dans leur autre assemblée. » Les raisons constitutionnelles de la dépréciation du Parlement ont aussi beaucoup compté dans l'effondrement du régime de Weimar. Le caractère hybride du texte de 1919, combinaison des systèmes présidentiels et parlementaires, donnait en effet aux contemporains le sentiment qu'il pouvait contenir sa propre alternative. Et le fait, je reviendrai dans l'heure suivante, que son article 48 offrait une échappatoire aux problèmes posés par l'absence d'une majorité et la paralysie du chancelier, selon l'expression de Wolfgang Mommsen, chloroforma la conscience des responsabilités parlementaires. Et la perception d'une possible autonomisation par ce biais du pouvoir présidentiel contribua sur ce mode à la décadence du parlementarisme, et ce d'autant plus que dès 1920, les deux tiers des gouvernements ne disposeront pas d'une majorité parlementaire en Allemagne. Et en dehors même des procédures prévues par l'article 48, le Reichstag vota dès 1919 des lois cadres qui accordaient au gouvernement le droit d'agir directement par décret dans certains domaines. Tandis que le président, Ebert le premier, prendra à de nombreuses reprises des décrets d'urgence sur la base de cet article 48. D'octobre 1919 à janvier 1925, Friedrich Ebert prendra ainsi 136 décrets sur cette base de l'article 48. L'article 48, qui était un article qui mentionnait dans son paragraphe 2 que le président d'Empire peut prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité et de l'ordre public et au besoin d'intervenir en employant la force armée. Et donc, l'interprétation très rapide de l'article 48 a été de s'en servir pour remédier en quelque sorte à l'absence de majorité parlementaire, et donc c'était une interprétation extrêmement extensive d'un article qui au début était considéré, j'y reviendrai, comme vraiment très limité dans sa vision de l'état d'urgence. Et Carl Schmitt pourra ainsi prétendre inscrire dans le cadre même de Weimar sa vision autoritaire, telle qu'il l'a développée dès 1921 dans son livre « La dictature », et 1923 dans Parlementarisme et démocratie. Le grand tournant présidentialiste qui n'était qu'amorcé en pointillé connaîtra l'accélération décisive en 1930 avec la nomination de Brüning comme chancelier. Ne disposant pas d'une majorité positive, il cherchera à gouverner de la façon la plus indépendante possible du Reichstag. Et le Parlement sera alors supplanté par le pouvoir exécutif législateur avec le recours accéléré à l'article 48. Brüning le fera en bénéficiant de ce qu'on appelait alors en Allemagne une majorité de tolérance qui était permise par le refus du SPD de s'associer aux partis extrémistes pour faire chuter le gouvernement, le KPD et le NSDAP. En pouvant de la sorte constituer un gouvernement présidentiel explicitement antiparlementaire, Brüning marquera l'inflexion irréversible du régime. Et à partir de juillet 1930, le président Hindenburg sera l'opérateur de ce tournant en multipliant le recours aux décrets d'urgence. Il en prendra 116 en 18 mois. Alors même, c'est ce qui est significatif, que le Reichstag écourtait parallèlement ses sessions et réduisait notablement son activité. Et la pratique de la dissolution, à laquelle il recourra, on le sait, accentuera le déséquilibre. Et lorsqu'il sera nommé chancelier en 1932, von Papen prolongera le mouvement en l'inscrivant cette fois clairement, ce sera le basculement décisif, dans la perspective d'une transition de fait vers un nouveau régime. Le contexte de crise économique de la période, la déflation, l'explosion du chômage, la cessation de paiement de certaines banques, contribua d'un autre côté à justifier ce climat d'état d'urgence auprès de la population. Au-delà de ces différents facteurs politiques et constitutionnels, c'est aussi l'inadaptation du système politique existant aux structures et aux attentes de la société allemande de l'époque qui précipita le déséquilibre entre le législatif et l'exécutif. Je m'appuie sur ce point sur un livre qui vient de paraître de Nicolas Patin qui s'appelle « La catastrophe allemande » et qui est un livre qui est très intéressant sur la période de Weimar et qui complète bien la synthèse récente de très bonne qualité faite par Bechler. Pour comprendre cette dimension sociétale de ce basculement, il faut partir du fait que, contrairement à ce qui s'était passé en Grande-Bretagne ou en France, l'expérience de guerre n'avait pas eu, outre-Rhin, d'effet massif de nationalisation des différents groupes sociaux. Si l'expérience des tranchées avait constitué pour les Français un cadre unique de rapprochement social, l'expérience allemande avait d'abord été plus diversifiée, pour une raison très simple, puisque les combats se déroulaient sur trois fronts bien distincts, et les tranchées, c'était un seul des trois fronts. Mais aussi parce que l'expérience de la guerre avait été très différente en termes sociologiques. Les soldats d'origine ouvrière ont ainsi été fortement marqués pendant le conflit par le sentiment et l'épreuve d'une distance sociale et de mépris dans le rapport aux officiers. Et cela ne faisait d'ailleurs que prolonger leur perception antérieure de la conscription. Dans les milieux bourgeois, on considérait positivement qu'on faisait le service militaire. Mais dans les milieux populaires, on ne parlait pas de service militaire. On disait simplement « je vais aller chez les Prussiens ». Cela n'empêchait pas que l'esprit de 1914, avec l'aspiration au dépassement des différences de classe qu'il exprimait, ait nourri des attentes assez largement partagées. Mais cet esprit de 1914 n'avait pas produit d'effet dans la réalité comme il y a eu des effets produits dans la société française ou anglaise. D'où aussi une forme sociologique de défiance vis-à-vis du monde parlementaire, le Parlement apparaissant comme le reflet des vieilles divisions sociales. Il restait, à bien des égards, l'expression d'une société d'ordre et de classe, alors que le pays, en fait, avait déjà commencé à faire son entrée dans une société de masse. C'est dans ce contexte que les nazis remporteront leur succès électoral de 1933. L'attente d'un pouvoir exécutif fort, dans un moment de crise économique dramatique, d'anti-parlementarisme, dont j'ai rappelé les termes, et de promesses d'unité sociale. Ce sera la force du slogan « Ein Volk, ein Reich, ein Führer ». C'est ces éléments qui avaient constitué le terreau favorable à la victoire. Et le simple déséquilibre présidentiel était alors prêt à se muer en véritable dictature, l'acclamation du Führer se substituant aux procédures précédentes de légitimation. Le pouvoir se personnalisant alors radicalement, en même temps qu'il s'individualisait et accroissait son emprise sur la société. Meinecke dira « Les Allemands n'étaient pas prêts pour la démocratie », pour expliquer la catastrophe. Il est très difficile de dire si un peuple est jamais prêt pour la démocratie. Si l'on entend par là que tous les électeurs se comportent en acteurs parfaitement rationnels et qu'oublient leur individu pour ne s'affirmer qu'en citoyens soucieux du bien commun. Mais il est frappant de constater que ce sont les divisions de la société allemande telles qu'elles s'exprimaient dans le système des partis qui ont joué un rôle essentiel. Il est frappant de constater aussi qu'à l'époque de Weimar, la démocratie n'avait été pensée que comme une procédure d'autorisation et non comme une régulation continue des rapports entre le pouvoir et la société, c'est-à-dire sur le mode d'une légitimité d'exercice. C'est pourquoi en Allemagne, la démocratie d'autorisation a pu se dégrader en dictature de l'exception. Au regard de cette question de la personnalisation du pouvoir, on peut distinguer deux figures et deux rhétoriques de totalitarisme. Le modèle de l'individualisation radicale, j'ai fait la distinction récemment entre individualisation, personnalisation, présidentialisation, celui du nazisme. Mais il y a un deuxième modèle, c'est celui de la superposition d'une individualisation et d'une dépersonnalisation sous les espèces du pouvoir anonyme du parti, celui du stalinisme. Dans le stalinisme, en effet, l'égocrate joue sur les deux tableaux. Il est à la fois l'individu qui incarne le parti, l'individu qui incarne le pays, et en même temps, il n'est que le porte-parole de la voix anonyme du parti. Le parti pense que, le parti a décidé. Et la force la force et la différence du totalitarisme soviétique aurait été justement de mêler de façon originale ces figures de hyper-individualisation et de dépersonnalisation sous les espèces du parti. Mais ces deux figures auront en commun de s'inscrire dans une même rhétorique de l'incarnation, même si ce sera, selon deux régimes différents, on peut dire un régime immédiat de l'incarnation dans le cas du Führer, un régime médiatisé pour le premier secrétaire. Je m'arrête là une ou deux minutes avant de continuer tout à l'heure par la description de la seconde figure qui est celle de l'exception.